appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole dans ce nouveau numéro des Paroles aux Auditeurs, votre magazine d'échange citoyen sur la fréquence de la paix. La campagne Le Congo n'est pas à vendre, regroupant une dizaine d'associations congolaises et internationales qui luttent et militent contre la corruption, recommande au gouvernement congolais de réhabiliter la Cour des comptes pour résoudre la question de la corruption qui gangrène le pays. Ces associations de la société civile estiment important et urgent la déconcentration de la Cour à travers toutes les provinces pour travailler aux côtés des assemblées provinciales, la prestation des serments des nouveaux magistrats récemment nommés et la disponibilité des moyens conséquents pour la Cour. Alors, qu'en pensez-vous? Pensez-vous réellement que cette initiative pourrait donner des résultats quant à la lutte contre la corruption? 081 890 63 30 pour participer à cette émission ou encore les 081 890 49 69. Vous avez également la possibilité d'interagir sur notre page Facebook avec l'ensemble d'internautes et également sur www.radiocapi.net. Jean-Claude Ossiala sur la mise en onde de cette émission et J de Bilanda Mystère assure la réalisation de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Professeur Florimond Mouteba, vous êtes avec nous, vous faites partie de ces consortiums qu'on a dénommé « Les Congo n'est pas à vendre ». Vous êtes avec nous, bonjour professeur.
Bonjour Gérard.
Alors d'entrée de jeu, vous militez pour la réhabilitation de la Cour des comptes. Pourquoi insistez-vous sur la réhabilitation de la Cour des comptes dès lors qu'on sait que le chef de l'État, encore le gouvernement congolais, a beaucoup plus s'est appuyé sur la réhabilitation de l'IGF, l'Inspection Générale des Finances?
Ok. Vous savez, le grand problème, c'est que derrière la lutte pour la réhabilitation de la Cour des comptes, nous voulons d'abord les triomphes de l'État des droits. Et le triomphe de l'État de droit n'est possible que si la bonne gouvernance est au rendez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire? La bonne gouvernance consiste en une gestion des affaires publiques, essentiellement exempte des pratiques abusives de corruption et qui respecte la primauté du droit à travers la transparence, la participation des citoyens, la redevabilité et ainsi de suite. Et donc, quand nous disons bonne gouvernance, eh bien, le grand mal qui mine notre pays aujourd'hui, à travers toutes ces institutions, c'est la corruption. La corruption a atteint un niveau systématique. La corruption, elle est, si vous voulez, elle est intimement liée au déficit de la maturité politique, au manque de responsabilité politique, au manque d'engagement idéologique, et elle s'est accélérée beaucoup toutes ces dernières années avec les conflits, les transitions, etc., etc. Et le coût de la corruption est énorme. D'abord, au niveau général, c'est la fragilité de l'État qui est en jeu ici avec la corruption. Du point de vue politique, c'est l'incapacité même de l'État de fonctionner et la stigmatisation du Congolais, ainsi que l'instabilité des institutions. Et il y a d'autres mots comme au niveau économique, la perte colossale des recettes de l'État et abus dans l'affectation des ressources. Au niveau moral, l'inversion des valeurs morales qui dépassent même les frontières de la honte. Et pour combattre la corruption, nous considérons qu'il faut un système de contrôle des finances publiques efficace. Et la Cour des comptes, qui est instituée par notre Constitution, la Cour des comptes, dont le rôle est détaillé dans la NOFIP, la Cour des comptes apparaît comme l'institution supérieure de contrôle, indépendante. Elle est sous la tutelle du Parlement. Et donc, il n'y a qu'elle qui peut vraiment faire un travail efficace pour combattre la corruption et faire en sorte que tous les moyens possibles, les recettes publiques, etc., soient canalisés vers les caisses de l'État et puissent être dirigés vers financement du développement.
Voilà. Alors, professeur Florimont, on va parcourir quelques actions urgentes que le consortium dont vous faites partie, notamment vous, l'ODEP, parce que vous êtes le PCA de l'ODEP, l'Observatoire des dépenses publiques. Vous avez, dans ce consortium, proposé, en ce qui concerne la réhabilitation de la Cour des comptes, qu'on commence d'abord par la mise en place du Conseil supérieur de la Cour des comptes. Qu'entendez-vous par là?
Je voudrais d'abord rappeler ceci. C'est qu'en novembre 2018, le président sortant, honoraire Joseph Kabila, a promulgué la loi organique qui donne à notre Cour des comptes les moyens de travailler, les moyens juridiques. Et elle met la Cour des comptes de la RDC au même niveau que toutes les cours du monde, des cours du monde. Et donc, depuis 2 ans, cette loi n'est toujours pas
d'application.
Et donc, c'est ça le grand problème. Donc, tout ce que nous prévoyons, par exemple, la mise en place du Conseil supérieur de la Cour des comptes, la nomination du premier président de la Cour des comptes, et puis qui sera suivi de président des chambres, le procureur général, etc., etc. Il y a la déconcentration de la Cour des comptes. Tout cela est prévu par cette loi. Il y a par exemple aujourd'hui, il y a la prestation de serment des nouveaux magistrats. Vous savez qu'au Congo, nous sommes une des cours des comptes qui a le moins de magistrats au monde. Ils sont 61. Sur les 61, 51 n'ont jamais prêté serment. Et donc, comment voulez-vous faire le travail des magistrats qui n'ont pas prêté serment? Ils vont travailler comment? Aujourd'hui, leur traitement est aligné sur les magistrats de la Cour de cassation, par exemple. Donc, ils sont bien payés. Mais tout simplement, ils ne peuvent pas travailler parce qu'ils n'ont jamais prêté serment. Et donc, ce sont toutes ces choses que nous réclamons. C'est vrai qu'on on essaye de réhabiliter l'inspection générale des finances. Mais je dois vous dire que ce n'est qu'un semblant parce que depuis le début de l'année, ils n'ont reçu que 12 000 dollars de frais de fonctionnement. Et donc, même l'inspection générale des finances a des difficultés.
A des problèmes de moyens.
Mais, quand même, elle fait son travail, mais seulement avec cette limite. L'inspection générale des finances, c'est le contrôle administratif.
Donc à ce jour, professeur, vous voulez dire qu'il n'existe pas de parquet attaché à la Cour des comptes?
Il y a un parquet, mais dont les magistrats n'ont, mais un parquet récent, mais dont les magistrats n'ont jamais prêté serment. Et donc ils ne peuvent pas travailler. Maintenant, pour que ce parquet attaché à la Cour des comptes fonctionne, mais il faut que les magistrats prêtent serment.
Donc le problème, c'est la nomination du premier président de la Cour des comptes, des présidents de chambre, comme vous l'avez dit, ainsi que du procureur général et des premiers avocats généraux et des avocats généraux.
Exactement. Il faut, par exemple, concernant le premier président de la Cour des comptes, actuellement, le président actuel est un président qui est intérimaire depuis 13 ans. 13 ans.
Intérimaire depuis 13 ans.
13 ans. Et il n'entre pas pour l'instant dans le cadre du nouveau dispositif qui est donc prévu par la loi organique. Et donc, il a su intervenir comme président. Il a su intervenir de l'ancien président selon l'ancienne loi. Mais aujourd'hui, il faut qu'on nomme le premier président et les autres, les dirigeants de la Cour des comptes. Et c'est le président de la République qui doit nommer ces gens-là. C'est le président de la République qui doit accepter le serment des magistrats, comme il l'a fait pour ceux de la Cour constitutionnelle. Mais il doit le faire aussi pour la Cour des comptes. Et donc, ce sont ces choses-là qui font que, aujourd'hui, la Cour des comptes traîne à être opérationnelle, alors que c'est vraiment l'instrument de lutte contre la corruption qui a été institué par la Constitution, qui est indépendant, qui a des cadres compétents et qui peut donner plus de résultats aujourd'hui, par exemple, que cette fameuse...
IGF.
L'IGF, non, mais l'autre, là...
L'agence de la lutte contre la corruption. Voilà. On va revenir quand même sur ça également, l'agence de la lutte contre la corruption, les travaux qu'il doit faire, et la Cour des comptes et l'IGF. Mais entre-temps, il y a quand même cette préoccupation. J'ai vu quand même dans les commentaires, les auditeurs sont... ils ont préféré avoir quand même de l'éclairage sur cette question. La déconcentration de la Cour des comptes à travers toutes les provinces. Et quel peut être le résultat?
Le résultat, c'est qu'elle sera à proximité de tout ce que utilisent ce que reçoivent les fonds publics et les utilisent. Et puis donc agir directement. Parce que n'oublions pas, la Cour des comptes a démis, en dehors de ses missions juridictionnelles, elle contrôle la gestion, elle évalue les politiques publiques, entre autres. Et donc, elle peut être, et puis, elle sanctionne les fautes de gestion. Donc, elle doit être près des acteurs, donc des responsables administratifs de l'État au niveau des entités territoriales décentralisées, au niveau même de la province elle-même, et à proximité de tous ceux qui donc peuvent recevoir les fonds publics et qui font les dépenses au nom de l'État. La Cour des comptes peut être juste à côté de ces gens-là pour pouvoir les contrôler à tout moment. Parce qu'imaginez-vous, avec les quelques 60 magistrats qu'on a au niveau national, nous avons 26 provinces aujourd'hui. Et combien d'entités décentralisées? Bon, la Cour des comptes a mission sur tous ces gens-là pour les contrôler, les auditer. Vous voyez que c'est vraiment très difficile. Donc, il faut déconcentrer la Cour des comptes, même si dans un premier temps, on ne peut pas le faire dans les 26 provinces, mais on peut le faire peut-être dans les anciennes provinces, les grandes provinces, à partir des anciennes grandes provinces, et ils vont agir dans les... Si on a à Kananga la Cour des comptes déconcentrée, elle peut agir sur les Kasaï, elle peut agir sur les autres provinces découpées du Kasaï central. Et donc, voilà l'importance de cette déconcentration.
Alors, je crois, pour éclairer un peu la lanterne des uns et des autres, avant de passer de l'autre côté des standards et accueillir les auditeurs qui veulent à tout prix, en tout cas, intervenir dans cette émission sur la réhabilitation de la Cour des comptes, est-ce que vous pouvez nous faire une idée sur la différence qui existe entre la Cour des comptes, l'Inspection générale des finances et l'Agence de lutte contre la corruption? Parce que les trois, finalement, qui fait quoi pour voilà. que ça soit efficace?
Je voudrais que, pour mieux comprendre, je vais me référer à la loi pour pouvoir faire cette distinction. D'abord, vous avez la grande question qui est importante dans notre pays aujourd'hui, c'est la réhabilitation de tous les contrôles. Tous les contrôles. Comment distingue-t-on ces contrôles-là? D'abord, vous avez les contrôles administratifs. Les contrôles administratifs, c'est le contrôle de l'administration sur ses propres services. Et parmi les intervenants, vous avez le contrôle exercé par les contrôleurs budgétaires, vous avez le contrôle exercé par les ordonnateurs, vous avez le contrôle exercé par les comptables publics, et enfin vous avez le contrôle exercé par l'Inspection générale des finances. L'Inspection générale des finances dispose d'une compétence générale en matière de contrôle des finances et des biens publics. Elle peut accomplir toute enquête ou mission de contrôle, des vérifications, des contre-vérifications, et de surveillance de toutes les opérations financières en recettes et en dépenses du pouvoir central, ainsi que des organismes ou entreprises de toute nature bénéficiant de son concours financier, donc de l'État central, sous forme de participation en capital, de subvention de prêts, d'avances ou des garanties. Donc, comme vous voyez, l'Inspection générale des finances a pour mission vraiment de veiller à l'application des lois et règlements qui régissent les finances publiques, à l'uniformisation des méthodes de travail. Mais c'est un instrument de l'administration. Dans d'autres pays, l'Inspection générale dépend du ministère des Finances. Ici, chez nous, depuis l'ancien président honoraire, il avait rattaché l'Inspection générale à lui, et elle est restée aujourd'hui rattachée à la présidence
de la République.
Mais avec l'inconvénient suivant. C'est-à-dire que l'Inspection générale des finances peut faire son travail.
L'Inspection générale des finances peut reçoit des injonctions de la présidence de la République.
Exactement. C'est-à-dire qu'elle peut faire le travail.
Mais qui ne sera pas objectif.
Si la présidence de la République décide de s'asseoir sur les rapports, c'est fini. Elle n'a rien à dire. C'est un service administratif, dépendant donc de l'exécutif. C'est là la limite de l'Inspection générale des finances. Maintenant, vous avez aussi le contrôle parlementaire, pour ne pas parler du contrôle citoyen. Mais en dehors de ça, vous avez le contrôle principal pour lequel nous nous battons,
la Cour des comptes.
Le contrôle juridictionnel. La Cour des comptes, elle est instituée par la Constitution. La Cour des comptes est indépendante. Et la Cour des comptes peut contrôler même la présidence de la République, n'importe qui dans ce pays. Elle peut le faire sans aucune restriction. Et donc, c'est pour cela qu'on a l'impression que on l'empêche de faire son travail. Et on met en avant des instruments.
Donc c'était pas nécessaire, c'était pas nécessaire la création de l'agence de lutte contre la corruption, parce que le travail devait déjà être fait par la Cour des comptes et l'IGF.
Exactement. Cette agence, elle est encore plus limitée que l'instruction générale des finances, dans la mesure où elle est attachée à la présidence de la République.
Donc il y a maintenant deux institutions rattachées à la présidence de la République. L'agence de lutte contre et l'IGF.
Exactement.
Voilà.
Donc à partir de ce moment, ces institutions peuvent faire tous les bruits qu'ils veulent. Hein, c'est vrai que l'institution générale des finances est en train quand même de révéler un certain nombre de choses. Mais si vous voulez, ça reste, limité dans le sens où ils vont où on leur dit d'aller. Mais ils ne peuvent pas aller où on ne veut pas qu'ils partent.
Tout à fait. Voilà. Donc ils seront limités parce que c'est la présence de la République qui, donne des injonctions à cette institution. Merci beaucoup, professeur. Nous vous gardons en ligne. Il est temps d'ouvrir les standards et d'écouter également les auditeurs. On reviendra sur la question des possibilités des moyens qu'on va également disponibiliser à la Cour des comptes. Parce que c'est vrai, il y a 2 ans, on a organisé des tests et il y a des magistrats qui ont été formés, qui sont aujourd'hui et qui n'attendent que la prestation de serment. Merci beaucoup. 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention en direct.
Oh Mario,
tout le monde sait.
Les grands succès musicaux d'ici et d'ailleurs ont désormais un espace qui leur est spécialement dédié sur votre radio. Gold Music vous fait voyager dans les temps avec une belle sélection bien métissée. Votre belle époque à travers la radio, c'est dans Gold Music. Du lundi au vendredi, de 16h05 à 17h, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi, la radio de toutes les musiques.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci une fois encore de votre fidélité à Radio Capi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre cadre d'échange citoyen. François, merci de nous avoir honoré de votre présence et nous vous accueillons en ligne. François, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour J.R., bonjour Thierry Lamengi, bonjour professeur, bonjour auditeurs de la Radio Capi à Ilebo, bonjour à Pierre Moutelé.
Voilà, comment intervenez-vous? Alors, quelle est votre réaction par rapport à ce sujet sur la réhabilitation de la Cour des comptes? Pensez-vous que c'est vraiment nécessaire, comme l'a dit notre invité?
Oui, exactement. Je salue, à l'instar de l'Inspection générale des finances, à l'instar de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, je salue la réhabilitation efficace de la Cour des comptes, parce que constitutionnellement parlant, la Cour des comptes joue un grand rôle en République du Congo. Vous savez, je me souviens à l'époque du Kasai Occidental, lorsqu'on était avec le gouverneur Kandembo, on avait reçu une délégation de la Cour des comptes qui vient vérifier les fonds perçus par la province et comment a été l'utilisation. Bon, je pense que la réhabilitation des cours de comptes s'avère impérieuse, s'avère très capitale dans la mesure où ça diminue, ça contribue à la bonne gestion, ça contribue à la bonne gouvernance de la gestion des choses publiques. Donc je pense que si aujourd'hui, parce que beaucoup de gens s'attellent seulement à l'IGF, mais l'IGF, vous avez bien suivi les explications du professeur, les années même profité aussi, l'IGF dépend directement de la présidence de la République, tandis que la Cour des comptes est impartiale, c'est-à-dire que la Cour des comptes, c'est le Parlement qui...
Oui, mais François, le professeur a expliqué comment l'IGF est arrivé sous tutelle de la présidence de la République. Parce qu'en réalité, c'est un contrôle administratif qui ne devait dépendre que du gouvernement, c'est-à-dire du ministère des Finances.
Oui, mais écoutez, il a donné la différence entre l'IGF, la Cour des comptes et l'Agence nationale de lutte contre la corruption. C'est pourquoi nous, contre la corruption, voulait dire. Moi, je soutiens la réhabilitation de la Cour des comptes. Vous savez que dans la Cour des comptes, je l'ai bien suivi, la Cour des comptes ne reçoit pas des injections politiques et consorts. Il a même dit que la Cour des comptes était même contrôlée la présidence de la République. Même si peut même savoir comment se déroulent les finances au niveau de la présidence de la République. C'est pourquoi il faut que la Cour des comptes puisse répondre à ces activités de routine. D'ailleurs, c'est constitutionnel, ça ne dépend pas même du ministre ou du président de la République, mais ça dépend des législateurs congolais, ça dépend de la constitution du 6 février 2001.
Mais il semble, selon nos informations, François, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore finalisé même le processus d'élaboration du règlement d'ordre intérieur de la Cour.
Mais de tout cet âge, la Cour travaillait. Vous avez même suivi le professeur vous dire qu'il y a un président intérimaire il y a 13 ans. Moi, j'étais à Kananga, ou avec le Kasai Occidental, je veux dire, la délégation était venue.
Non, il est là, ça fait 13 ans, mais pas sous les statuts de cette nouvelle réforme initiée par l'ancien régime pour arriver à avoir cette Cour des comptes réellement efficace.
Non, mais les nouvelles orientations, les nouvelles réformes dont vous parlez, ça doit être d'une manière progressive. En attendant les réformes, mais les services doivent fonctionner. Comment voulez-vous que les nouvelles réformes, même l'IG, l'inspecteur général des finances, bien sûr, ça existait aussi à longtemps, mais ça ne se laissait pas entendre, mais en attendant les nouvelles réformes, les services doivent fonctionner.
Nous avons les principes de continuité des services. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci François. Alors on va prendre Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, vous êtes avec nous?
Oui, nous sommes avec vous. Bonjour Monsieur Gilles, bonjour Monsieur le Professeur, bonjour à tous. Et merci beaucoup pour votre brillant service que vous rendez à la nation.
Quelle est votre réaction, Jean-Baptiste, par rapport à ce sujet? Aimeriez-vous que cette Cour des comptes soit réhabilitée comme le souhaite le Congo n'est pas à vendre?
D'abord, le professeur, il fait partie de l'Observatoire de dépenses publiques. Je rappelle que récemment ici, que ODEP avait publié un rapport contenant bien évidemment les corruption, le détournement des deniers publics d'une façon illégale. Mais jusqu'à présent, ce rapport qui a été remis par ODEP n'aboutit en rien. Il n'y a aucune suite là du tout. La RDC a connu beaucoup de problèmes de détournement des fonds publics et absolument aucune chose. Donc, aucune réaction de la part du gouvernement. Je crois que pour moi, à mon humble avis, la question aujourd'hui de détournement n'est pas une question encore de parler de la réhabilitation de la Cour, bien sûr, de comptes. Parce qu'il s'agit tout simplement d'une question de volonté, c'est-à-dire que la volonté de nos gouvernements, de notre gouvernement, de pouvoir mettre en place des mesures contraignantes. On a assisté au scénario de la procédure judiciaire de M. Vital Kamerhe. Alors je crois que si ce genre de procédure de détournement d'une façon juridique continue voyez jour, d'une façon régulière, sans aucune politisation, à tout cas on pouvait facilement rayer bien évidemment la corruption. Mais quand le professeur et son équipe évoquent bien évidemment la question de la réhabilitation de la Cour des comptes, je crois que pour moi, surcharger le gouvernement, il suffit tout simplement de mettre une équipe dans le système judiciaire aujourd'hui, et une équipe qui sera attachée bien évidemment à résoudre le problème qui sont liés à la corruption. Tout ceci, ce n'est que de surcharge et ce n'est pas important. La chose la plus importante que nous pourrions souhaiter au gouvernement de faire est de passer une équipe qui sera liée à des questions, une équipe dans les systèmes, dans les espaces judiciaires de la RDC, sera liée bien évidemment à des questions de détournement, de corruption. Moi, mon humble avis, brièvement, je crois que c'est un surchargement, pour moi, qui n'a pas sa place d'être au moment difficile où nous sommes actuellement. Et je propose ma solution et que le gouvernement puisse mettre en place, comme on l'a déjà mis, qui fonctionne aussi très très bien, de mettre en place une équipe qui sera liée à résoudre cette question des détournements, des corruptions. Au-delà de tout, c'est la volonté du gouvernement qui doit être
Dès lors qu'il y a déjà des instruments juridiques qui existent, pourquoi ne pas les réhabiliter au lieu d'en créer d'autres qui peut-être constituerait encore un poids financier pour la République, parce que c'est un personnel de plus à pouvoir payer.
Mais il y a des dispositions, vous le dites, juridiques, bien évidemment, mais je pose la question, avant tout, on ne traitait pas de ce genre de questions, on traitait de ce genre de questions, mais toutefois, une équipe qui était mise en place pour résoudre ce genre de questions. Donc pour moi, en tout cas, même s'il y a déjà des dispositifs juridiques, il y a des lois qui sont le règlement qui est d'ailleurs en cours d'élaboration, moi je ne trouve pas, en mon avis, la vie, en tout cas,
l'opportunité.
Cette opportunité
de pouvoir réhabiliter la Cour des comptes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, d'être intervenu et puis d'avoir eu une position contraire à celle de François qui intervenait en premier et qui a ouvert d'ailleurs les débats. Fariel, vous êtes avec nous également. Fariel, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs, Fariel.
Bonjour, Monsieur Gilles Lungembolabungue, c'est Fariel Malacha depuis Kasaï Central. Monsieur Gilles, je suis en train de saluer d'emblée ce sujet, Et je félicite aussi l'idée de nos frères de Congo n'est pas à vendre. Parce que si aujourd'hui la Cour des comptes est ratée provinciale, cette Cour doit aider nécessairement les assemblées provinciales de travailler d'une manière efficace pour lutter contre les détournements.
Détournement. Au niveau des provinces. Oui,
au niveau des provinces que nous dénonçons à chaque fois parce que, monsieur Gire, vous êtes, et sans savoir qui est dans notre pays, nous condamnons beaucoup les actes de détournement parce que les dirigeants ou les gouvernants qui dirigent nos institutions n'arrivent pas à cultiver l'intérêt général, comment gérer les ressources publiques de l'État à telle fin d'aider la population, comment aider aussi les pays et à atteindre aussi le développement. C'est pourquoi nous saluons cette idée de telle façon que la Cour soit vraiment rattachée aux assemblées provinciales pour que cette dernière travaille aussi efficacement et lutte aussi contre les antivaleurs. Parce que quand on est au service des institutions de l'État, on doit nécessairement travailler pour aider les pays à booster le développement. Mais quand on arrive là, on commence à avoir l'esprit de détournement, la corruption. Et de cette manière-là, on n'arrivera pas à atteindre l'objectif. C'est pourquoi nous félicitons cette idée de nos amis
de réhabiliter la Cour des comptes.
Oui, de Congo n'est pas à vendre pour que cette Cour vraiment soit vraiment décentralisée au niveau provincial à telle fin d'aider nos assemblées de bien travailler, monsieur Giel.
Merci beaucoup, Fariel. Alors, Peter, êtes-vous pour ou contre la réhabilitation de la Cour des comptes telle que proposée par le Congo n'est pas à vendre?
Merci, monsieur Giel. Hier, pour ma part, accroché à ce niveau du débat avec les amis. Moi, je pense que l'idée des associations est bonne pour intensifier la Cour des comptes à travers l'ensemble des provinces du pays. Néanmoins, ce que moi, je pourrais avancer comme argument à ce niveau, M. Pierrot, c'est qu'il y a eu d'abord les tribunaux qui sont installés à travers les différents territoires que compose notre pays. Jusqu'aujourd'hui, les tribunaux n'ont jamais été opérationnels faute des magistrats, des juges ainsi de suite. Donc, au Congo, nous avons un problème d'abord des magistrats. Il y a insuffisance. Vous allez vous comprendre avec moi qu'à travers le pays, il se pose un problème de justice qu'on doit rendre. Mais le fait qu'il n'y a pas de magistrats, pour le moment, je pense que c'est d'abord inopportun, mais c'est efficace. Ce serait capital pour que la Cour des comptes soit au sein de notre administration à travers les provinces. Cependant, l'idée que moi je voudrais mettre en contradiction avec les amis, c'est que la Cour des comptes a une mission spéciale qui est déterminée à l'article 180 de la Constitution. Sa mission, il sert nécessairement à contrôler les finances de l'État, la gestion de l'État. Donc, cela ne peut pas exclure que l'Assemblée, les assemblées provinciales ne soient pas aussi contrôlées. Pour que le contrôle soit efficient, indépendant et impartial, il faut que la Cour soit de manière impersonnelle et indépendante, puisse travailler de manière indépendante, non avec les assemblées, qui aujourd'hui, les assemblées sont constituées de députés que nous constatons qu'ils sont même la cible d'émergence corrompue et corruptière. Donc le fait que la Cour soit attachée à des assemblées, moi je pense que là c'est accentuer davantage la corruption que nous décrions à travers notre...
Merci beaucoup, Peter. 081-890-6330 ou encore le 081-890-4969 pour votre intervention en direct.
Découvrez les modèles et les talents congolais dans le magazine Étoile. Des hommes et des femmes au parcours exceptionnel. Trouvez une source d'inspiration à travers ces personnes connues et ces citoyens lambda sur Radio Capi. Étoile, de la découverte à l'inspiration. Radio Capi vous propose des hommes et des femmes d'exception. Suivez-les dans le magazine Étoile tout le samedi à 14h05 et 19h05, puis en rediffusion le lundi à 15h30, heure de Kinshasa.
Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs se poursuit avec vous, professeur Florimond Mouteba. Vous êtes le PCA de l'ODEP et membre de la campagne Le Congo n'est pas à vendre, regroupant une dizaine d'associations congolaises internationales qui luttent et militent contre la corruption. Et vous avez recommandé la réhabilitation de la Cour des comptes, qui est un instrument juridique pouvant lutter efficacement contre la corruption. Vous venez de suivre cette série des auditeurs. Quelle est d'abord votre réaction lorsque les uns soutiennent la démarche de Congo n'est pas à vendre, et d'autres par contre estiment que finalement ce n'est pas opportun en ce moment?
En fait, bon, sur les quatre intervenants, trois en majorité soutiennent l'idée, elle se a un peu quelques confusions, dans le sens où il parle d'une équipe, mettre en place une équipe, mais nous voulons instaurer un état de droit. Et dans le cadre de l'état de droit, la constitution, la loi, donc la LOFIP, la loi qui régit l'organisation de finances publiques dans le pays, a mis en place dans une section sur les contrôles, elle décrit tous les contrôles qui doivent être, donc comment est-ce que les budgets de l'État, les finances de l'État, les gains de l'État doivent être contrôlés. Et vous avez les contrôles administratifs, les contrôles juridictionnels et les contrôles parlementaires. Donc il n'y a pas d'autre, en dehors de la loi, d'autres structures qu'on va créer comme ça. Bon, on peut hein, si on veut, mais nous savons que, dépendant de la Constitution, émanant de la Constitution, la Cour des comptes est l'institution supérieure de contrôle dans notre pays. Donc il n'y a pas d'autre inventer la roue, alors que la loi a déjà donné les instruments qui doivent donc aider pour contrôler et donc lutter efficacement contre la corruption. Et donc c'est là où il a fait une petite confusion. Donc la Cour des comptes est très 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 utile. Tous les pays utilisent la Cour des comptes. Dans un pays comme la France, lorsque les régimes changent, c'est la Cour des comptes qui fait l'état des lieux de la nation et qui le rend public. Et tout le monde s'incline. Donc la Cour des comptes est un instrument très important pour le contrôle.
Alors, à un certain moment, il y avait l'idée de pouvoir placer la Cour des comptes sous tutelle de l'Assemblée nationale.
Bon, cette tutelle, ce n'est pas une tutelle comme celle de l'Inspection générale de la finance sur l'Inspection générale du ministère de la finance ou de la présidente de la République sur l'Inspection générale de la finance. Jamais le bureau du Parlement ne va empêcher la Cour des comptes de venir contrôler les comptes de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Jamais. Hein? Par contre, la Cour des comptes peut être, comment dirais-je, les conseillers, les conseillers même du gouvernement, vous savez, parce qu'elle évalue les politiques publiques. Elle est conseillère même financière du gouvernement, mais elle peut aussi conseiller l'Assemblée nationale. Elle peut assister les commissions parlementaires de contrôle sur telle institution. La Cour des comptes peut assister donc ces parlementaires là.
Oui, mais
une sorte de tutelle bien sûr, mais ce n'est pas une tutelle administrative contraignante comme celle par exemple de la présidente de la section de finances.
Voilà. Alors la grande question également, est-ce que toutes ces agences ou encore toutes ces structures, que ce soit la Cour des comptes ou l'IGF et également l'agence, est-ce qu'ils ont ils fonctionnent avec un caractère contraignant? Parce que
l'inspection générale des finances, oui, l'agence également, parce qu'ils sont dépendants d'un responsable et lesquels les plus hauts responsables de l'État.
Un procureur.
Donc, à partir de ce moment-là, les présidents de la République, aujourd'hui, imaginez-vous, par exemple, qu'il y a un problème au niveau de la présidente de la République. Vous vous rappelez, lorsque, Vita Kamerhe était directeur de cabinet, et qu'il a sous sa tutelle, sous sa direction directe, l'agence de lutte contre la corruption. Vous croyez qu'il y aurait eu ce qu'il y a eu après la dénonciation par l'ONEP d'une mauvaise gestion du programme de 100 jours? Non! Et cela aussi, j'en profite pour dire à l'auditeur de tout à l'heure qu'il n'a pas très bien compris que le procès Kamerhe provient d'abord a été initié suite à une alerte lancée par
l'ONEP
en janvier. Et donc ça a donné des résultats. Aujourd'hui, par exemple, l'alerte donnée par rapport à la gestion de Tonco, le parquet général,
la Cour de Matete,
après la Cour de Matete, est déjà en train d'instruire les dossiers. Et c'est très avancé. Et donc, il y a des effets. Mais là, c'est là où je peux rejoindre tout le monde, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'il y ait une volonté quand même de la part du gouvernement de lutter réellement contre la corruption et de réhabiliter réellement les contrôles. Parce que sans les contrôles, je dis bien tous les contrôles, j'insiste sur la Cour des comptes, mais aussi tous les autres contrôles. Vous savez que, par exemple, revenons au contrôle administratif, le contrôleur budgétaire, il peut interdire, il peut refuser l'engagement d'une dépense par l'ordonnateur, par le ministre. Il peut refuser et on ne va pas les sanctionner. Donc c'est déjà une forme de contrôle dès le départ, ce contrôle administratif-là. Mais même là, aujourd'hui, c'est très difficile pour un contrôle budgétaire de contredire un ministre, de contredire le président du Sénat, de contredire l'ordonnateur de la présidence qu'est le président de la République, ainsi de suite. Ouais. Donc, c'est tous les contrôles qui doivent être réalisés. Et en plus de raison, les contrôles de la Cour des comptes. Vous imaginez, par exemple, le fait que 51 magistrats qui sont là, qui touchent un salaire, mais qui ne peuvent pas travailler, tout simplement accepter juste le serment. Une cérémonie qui va durer juste une journée. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on n'a pas cette volonté-là de le faire? Donc c'est là le problème. Mais le problème, ce n'est pas les instruments eux-mêmes, non. Ces instruments, s'ils ont les moyens, je vous ai dit tout à l'heure que l'inspection générale des finances n'a eu que 12 500 dollars depuis les débuts d'année pour frais de fonctionnement, malgré tous les bruits qu'on fait. Donc la Cour des comptes, n'en parlons pas.
Voilà, semble-t-il qu'il y a vraiment un problème de moyens au niveau de la Cour des comptes. Vous, au niveau du consortium, vous avez proposé d'organiser les services de la comptabilité publique et doter ces services de tous les moyens nécessaires, donc humains, matériels, technologiques et financiers.
Oui, parce que vous savez, pour que la Cour des comptes puisse, par exemple, exercer sa mission, ses missions juridictionnelles, il faut que les comptables publics aient les moyens de travailler. Tu vois, aujourd'hui, les comptables publics, sur peut-être 8 000, c'est à peine peut-être 500 ou 600 qui, à la fin d'une année, amènent leur comptabilité à la Cour des comptes. Et encore, elle est incomplète, elle est mal faite, et tout, et tout, et tout. Donc, il y a déjà à ce niveau-là, en amont, renforcer les comptables publics, les former, les donner des moyens modernes pour pouvoir faire la comptabilité publique. N'est-ce pas? Et donc, il y a déjà ça. Si ce n'est pas fait, la Cour des comptes elle-même aura des difficultés pour juger les comptes de ces gens-là. Parce que la Cour des comptes est juge des comptables et publics. N'est-ce pas? Et sanctionne aussi les fautes de gestion d'ordinateur. Donc, à ce niveau-là, et aujourd'hui, la Cour des comptes ne fait que les missions non juridictionnelles. C'est-à-dire les contrôles de gestion, l'évaluation des politiques, l'appréciation des comptes, etc. Mais elle doit effectuer les deux missions. Parce que n'oublions pas que c'est à travers le comptable public que tout l'argent public est dépensé, et ça passe par là. Donc, il faut mettre les moyens pour vraiment que la Cour
fonctionne efficacement. Le dernier rapport de la Cour des comptes, si ma mémoire est très bonne, je peux peut-être me tromper aussi, date de 2012, avec ces rapports de la gestion même de GOPAS. Et aujourd'hui, ces rapports ont été transmis au niveau du gouvernement, au niveau du Parlement, mais personne ne jette un regard sur ces derniers rapports, sur la gestion de GOPAS.
Vraiment, vous avez compris vous-même qu'il y a un problème sérieux. Alors, qui sont complices, qui sont mêlés dans ce scandale-là, c'est là tout le point d'interrogation. Vous savez, pour revenir par exemple à ce genre de scandale, Transco. Transco, c'est une société à laquelle, vraiment, qui est nécessaire pour les 12 millions de Congolais qui vivent dans la ville de Kinshasa. Vous savez un peu autant combien d'accidents sont faits avec les esprits de mort. Beaucoup de gens sont morts dans ce transport-là. Avec les wewa, les personnes qui sont enlevées dans les caisses et tout ça. C'est tous les 12 millions de Chinois qui sont intéressés par l'existence d'une société de transport comme celle-là et qui fonctionne. Et lorsqu'on dit, par exemple, dans le slogan « Le peuple d'abord »,
Mais c'est là vraiment le domaine du peuple d'abord. C'est le transport, les déplacements, etc.
Depuis que nous avons... Est-ce qu'au niveau, à votre niveau, avez-vous bénéficié quand même de concours, les confiances des banques qui devaient quand même donner quelques éléments au niveau de la justice par rapport à ces Transco? Parce qu'à un certain moment, nous avons eu l'information que les banques n'obtempéraient pas. Ils ont même refusé de donner, de coopérer avec les parquets.
Après notre communiqué, elles ont collaboré avec l'avocat général de la République qui est en charge de ces dossiers-là. Nous félicitons notre système judiciaire d'aujourd'hui. Parce que l'IPP, vraiment la détermination du procureur général, donc auprès du tribunal de la cour...
Près de Matete.
L'IPP, cette détermination, l'IPP, la détermination de l'avocat général de la République qui a les dossiers en main et qui est en train de faire une acquisition d'informations dans toutes les directions, je vous assure que ça allait être encore une lettre morte. Parce que du côté du pouvoir public, ni le ministre des Transports ne s'est associé à cette démarche pour une entreprise qui est sous sa tutelle. Aujourd'hui, il n'y a que 30 bus. Aujourd'hui, on parle de nouveaux bus qui vont venir. Mais on a dénoncé cette stratégie financière. On l'a dénoncé, mais au niveau du gouvernement, silence radio. Alors, comment, vous savez, même tous les péages qu'on est en train de voir aujourd'hui avec, excusez-moi de sortir un peu, consultation, etc., etc., c'est juste une course au pouvoir. On se positionne pour 2023. Chacun court, c'est dans tous les sens.
Peut-être vous serez aussi consulté pour donner quelques orientations sur le plan financier. Merci beaucoup, professeur Florimont. Nous vous gardons.
D'ailleurs, dans leur agenda, la gestion des finances publiques n'est pas à l'ordre du jour.
Voilà. Voilà, je crois que c'est une occasion de, comme on en parle, que ceux qui donnent des orientations ou les termes de référence de ces consultations pensent également à inscrire dans l'agenda la question des finances publiques. Alors, professeur, nous vous gardons en ligne, il est temps d'ouvrir encore les standards à nouveau pour accueillir les auditeurs qui ont estimé de pouvoir participer dans cette émission. Marie-Paul est à Kisangani et Chikwa Kinshasa. Marie-Paul, vous êtes avec nous. Bonjour, Marie-Paul.
Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre contribution?
Oui, monsieur le journaliste, j'ai suivi les uns et les autres. Et il faut dire que aussi longtemps que les autorités de la RDC ne prennent pas conscience de l'absence de la gouvernance et de la démocratie dans les chefs des affaires publiques et dans ces pays, je pense que toutes ces alertes-là, toutes ces sonnettes d'alarme et toutes les dénonciations que nous avons tant entendues ne constituent que des simples soldats, parce que c'est toutes ces dénonciations, toutes ces alertes-là ne vont pas se traduire à ce que ces initiateurs pensent. Pourquoi? Parce que la classe politique n'est pas dans le bain de la démocratie, n'est pas dans le bain de la gouvernance. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes dans un État où les autorités ne savent pas gérer les affaires publiques, les autorités ont d'autres agendas que celui d'assurer le développement ou les partages de tout ou la justice, je pense qu'on peut beau dénoncer, on peut beau chercher à établir, je ne sais pas moi, les cours, je ne sais pas moi, les tribunaux, et tout cela ne va pas contribuer à quelque chose, d'autant plus que les autorités ne sont pas dans ces bains-là. Et voilà pourquoi moi je trouve plutôt que le problème de la RDC, ce n'est pas le problème de multiplier les institutions judiciaires et ainsi de suite. C'est les problèmes d'hommes. L'homme politique congolais, c'est lui qui détruit l'État. C'est l'homme politique qui détruit l'État. C'est l'homme politique congolais qui fait que l'État n'assure pas les tâches régaliennes. Et parce que, monsieur le journaliste, lorsque vous prenez notre constitution, vous prenez toutes les lois qui existent dans ces pays, vous allez voir qu'il y a un bon dispositif
qui pouvait permettre que ces pays avancent, qui pouvait faire que les pays puissent avoir une bonne gestion, avoir des signes de la gouvernance qui selon les principes. Mais qu'est-ce qui fait que tout cela ne soit pas au rendez-vous?
Donc pour vous, vous estimez c'est que c'est un problème
d'ordre. La classe politique est déroyée, la classe politique est dévoyée de tous les attributs justement de la gouvernance. Alors pour moi, ce qu'il faut faire, c'est plutôt de faire une table rase, c'est-à-dire on doit renouveler la classe politique. Et en renouvelant la classe politique, on va donner à l'État tous ces attributs régaliens, parce que l'État aussi doit assurer, parce que la gestion, même les banques, les détournements que nous connaissons, c'est parce que les hommes politiques ne savent pas que le pays doit être dirigé selon les principes de la Constitution, selon les lois, et non selon toutes ces déviations que nous connaissons. Et alors que, en connaîtrant, en avançant dans cette façon, le pays est en train de sous-développer et que tous les programmes qu'on a, tous les programmes qu'on initie, ne trouvent pas les concrets réels. Pourquoi? Parce que
Tout ça, c'est un problème
de comportement.
Merci beaucoup. Merci beaucoup,
Marie-Paul.
Voilà, merci beaucoup, Marie-Paul. On va prendre Chico qui est à Kinshasa. Chico, bonjour. Chico, vous êtes avec nous. Bonjour. Vous êtes en direct sur Radio Capi. Allô, Chico.
Allô, Radio Capi.
Vous êtes en direct, Chico.
Allô, Radio Capi.
Oui, vous avez la parole, Chico. Quelle est votre contribution, Chico?
Allô, Radio Capi.
Est-ce que vous nous entendez? Vous nous écoutez?
Allô?
Voilà, des petits soucis avec la ligne de Chico. 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention en direct. Et vous avez également la possibilité d'interagir ensemble avec les internautes sur notre page Facebook ou encore sur www.radiocapi.net.
Vous êtes une femme leader? Vous connaissez une femme leader?
Responsable politique au cadre de l'État, avocat, juge, journaliste, responsable dans la société civile, le monde académique, les entreprises publiques, les organisations internationales, les ONG, entrepreneurs ou encore leaders communautaires.
Connectons-nous! Faites-vous connaître pour intégrer le premier annuaire des femmes leaders en RDC, produit par ONU Femmes, l'Organisation des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.
Contactez-nous par téléphone au 082 62 91 154.
Ou alors par mail à femmeleaderrdc@gmail.com.
Parole aux auditeurs.
Professeur Florimont, mis à part la mise en place des formations de la Cour des comptes, également la mise en place effective du parquet attaché à la Cour des comptes, la déconcentration de la Cour des comptes, la prestation des serments, la dotation de la Cour des comptes des moyens conséquents, vous avez dans votre plaidoyer au niveau du Congo n'est pas à vendre, également posé la question de retard de paiement du personnel administratif qui viennent à l'appui, disons, aux magistrats. C'est vraiment une réalité.
C'est une réalité. Et nous sommes allés en direction, nous sommes réunis le vendredi passé avec un groupe de députés à l'Assemblée nationale, principalement ceux qui sont dans l'association des parlementaires africains qui luttent contre la corruption, pour de faire un plaidoyer par rapport aux moyens qui doivent être mis à la disposition de la Cour des comptes, surtout que le budget, la loi de finances 2011 vient d'être déposée, le vendredi même là, ça venait d'être déposé. Nous sommes allés pour plaider vraiment leur intervention, qu'ils soient vraiment les porte-parole de la société civile et bien sûr de la Cour des comptes, pour que les moyens prévus soient mis à la disposition, pour justement que les hommes qui travaillent là-bas puissent être payés et vivre donc dignement. Mais je voudrais revenir sur ce que je disais tout à l'heure concernant le coût de la corruption, notamment le coût politique. J'ai dit que le coût politique de la corruption, c'est l'incapacité de l'État de fonctionner, mais aussi l'instabilité des institutions. Vous voyez ce que nous vivons actuellement. Vous savez, nous, on a tous déploré ce qui s'est passé, vous vous rappelez, à l'époque avec les sénateurs. Mmh. Bon, tout le monde a condamné le fait que le processus électoral dans son entièreté a été accompagné par le processus de la corruption. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, tout le monde est en train d'applaudir. Nous lisons sur les réseaux sociaux que, voilà, le président de la République va casser la majorité de l'autre, que nous avons condamné parce qu'il était issu de la corruption. Donc, il va lui-même puiser encore dans ces députés-là qui étaient mis en place, nommés par la corruption, pour qu'ils viennent travailler avec lui. Vous voyez? Donc, j'ai rejoint l'auditeur tout à l'heure qui parlait de...
Fandom.
L'irresponsabilité des acteurs. Mmh. Comment voulez-vous aller puiser dans ce que tout le monde a condamné, nous aller puiser des députés là-dedans? On sait comment l'autre camp a pu avoir des gouverneurs partout, la majorité dans toutes les assemblées provinciales, au niveau national, etc. Et vous voulez faire la même chose. Et il y a une élite qui est en train d'applaudir ça, qui est là-bas, parce qu'ils espèrent, comment dirais-je, remplir leur petit ventre, etc. Vous voyez, avec ça, comme disait l'auditeur de tout à l'heure, le pays est mal barré. Il est vraiment mal parti. Et une telle classe politique, franchement, elle ne mérite pas de continuer.
Voilà. Alors, on va accorder juste 30 secondes à deux auditeurs, et puis on revient pour la conclusion. AG les vainqueurs, vous êtes avec nous? Monsieur les AG?
Oui.
Voilà, vous avez la parole juste en 30 secondes. Qu'est-ce qu'on peut retenir dans cette question? Êtes-vous pour ou contre la réhabilitation de la Cour des comptes?
Nous sommes pour la réhabilitation de la Cour des comptes. Cependant, le gouvernement congolais doit relever certains défis, tels que la carence en ressources humaines, les ressources financières allouées pour la bonne fonctionnalité de la Cour, et en fait la fidélisation des ressources donc financière humaine, donc la motivation des différents animateurs pouvant animer les différents organes de la Cour, sachant que la même Cour joue un grand rôle dans les contrôles juridictionnels des finances publiques.
Merci beaucoup, Agé. Alors, Eddy, vous aussi, vous pouvez pas passer dans 30 secondes un mot, Eddy?
Oui, je vous écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
En 30 secondes, parce qu'on n'a plus assez de temps, on va conclure avec notre invité.
Merci beaucoup. En 30 secondes, j'essaierai le plus bref possible. Mais il faut signaler que cette démarche est à encourager, mais par moment, il n'est pas à encourager. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que vous allez vous souvenir qu'il y a récemment l'ordonnance qui a créé une agence qui va lutter contre la corruption, ce qu'on l'a dit. Alors on doit éviter de la corruption pour faire avancer notre pays. Mais comment on doit créer encore une autre agence à laquelle on a dévolu des compétences qui étaient attribuées à la Cour des comptes?
À la Cour des comptes. Voilà, juste une question, on s'arrête là, merci beaucoup. Alors on revient à vous, professeur Florimont. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a eu des bruits. Nous avons vu la Banque Centrale, disons, dire clairement qu'il y avait d'autres comptes de l'État qui étaient déjà fustigés par les passés. Donc la Cour des comptes va résoudre toutes ces difficultés-là.
Absolument, elle va le faire. Moi, je dirais ceci, Gère. Aujourd'hui, on nous parle d'un budget de 6 milliards 800 millions. Mais, vous savez, pour que on puisse mobiliser ces moyens-là, il faut que, surtout que l'année ici, l'année 2020 a été une très très mauvaise année, où les entreprises n'ont pas bien fonctionné, mais pour qu'on arrive vraiment à mobiliser ces moyens-là, il faut réhabiliter les contrôles. Pour qu'on puisse mettre fin au coulage de recettes, parce que les régies financières doivent être surveillées de près. Les entreprises publiques, on a vu dans le cas des transports, doivent être surveillées de près. Et il faut des contrôleurs indépendants qui ont les moyens de le faire. Moi, je peux vous assurer qu'en Transco, il y a des épouses parfois de certaines personnalités importantes du pays qui ont bénéficié des marchés publics de gré là-bas et qui touchent de l'argent chez Transco. Donc il faut des contrôleurs indépendants. Mmh. Et la Cour des comptes peut jouer ce rôle-là. C'est de cette manière qu'on va mobiliser les fonds parce que nous avons la maladie ici, la pandémie ici, et nous avons beaucoup à faire,
voilà.
Nous avons besoin de moyens, et donc il faut le contrôler, il faut mettre fin à la corruption. Sinon, sinon on va mobiliser au mieux l'année prochaine, peut-être 1 milliard.
Ça serait un cata.
Parce que cette année, on ne dépassera pas 3 milliards.
Professeur Florimond Mouteba, merci d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. Nous rappelons que vous êtes le président, donc le coordonnateur de la campagne Le Congo n'est pas à vendre. Hein. Il y a combien de d'associations dans cette campagne?
Bon, ici, en tout cas, il y a 17 organisations au niveau national et international. Et là, ici, moi, je suis le coordonnateur technique de la campagne pour la réhabilitation de la Cour des comptes, mais je suis le président de l'Observatoire de la défense civique, comme tout le monde le sait. Donc l'Observatoire est membre parmi les 17 organisations qui sont chargées de faire cette campagne en faveur de la réhabilitation de la Cour des comptes pour lutter efficacement contre la corruption.
Professeur Florimond, merci d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt. Voilà, on dit également merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission et merci également à tous ceux qui ont participé à cet échange citoyen. On prend rendez-vous avec vous demain dans un autre numéro de Parole aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.